C'est donc ce soir sur Arte que nous allons découvrir ce que Jan Karski avait confié à Claude Lanzmann en 1987 à propos de sa fameuse mission. Fameuse, cette mission ne l'était guère chez nous jusqu'à la parution du livre controversé que Yannick Enel a consacré l'an dernier à Jan Karski. Et Shoah, le film de Lanzmann, n'était pas de nature à en faire saisir toutes les implications, comme Karski s'en était plaint lui-même dans un article publié par la revue Esprit. Je cite Karski, « D'une interview de 8 heures, je n'ai revu à l'écran qu'un extrait de 40 minutes. Monsieur Lanzmann n'a pu insérer la partie, à mon sens, la plus importante de l'interview qui se rapporte à la mission que j'ai effectuée à la fin de 1942. » Alors quelle était donc cette mission? Eh bien Jan Karski, jeune lieutenant à l'époque, fut choisi comme courrier par le gouvernement polonais en exil à Londres pour effectuer des missions en Pologne occupée par les nazis en raison de capacités de mémoire qui étaient exceptionnelles. C'est un petit peu le Daniel Cordier alias Caracolla polonais, courrier lui aussi entre la France libre à Londres et la France occupée. Durant l'été 42, alors que venait de s'ouvrir l'ultime phase de l'extermination des Juifs d'Europe, la solution finale, Jan Karski fut envoyé par la résistance polonaise à Londres. Il avait pour mission d'informer les gouvernements alliés sur l'étendue des massacres qui étaient en cours dans son pays du fait des occupants. Alors il a été reçu par le ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Eden, qui ne l'autorisa pas à rencontrer Winston Churchill. Il fut ultérieurement, l'année suivante, plus longuement entendu par le président américain en personne, Roosevelt. À chacun, il raconta ce qu'il avait vu de ses yeux dans le ghetto de Varsovie, ce qu'il avait vu dans un camp d'extermination dépendant du complexe de Belzec où il avait pu pénétrer grâce à la résistance polonaise. Il était donc l'unique témoin visuel du système dément d'extermination industrielle des Juifs par les nazis. Son témoignage fut-il pris au sérieux? À la fin de cette année 42, la presse américaine commença à parler d'extermination des Juifs. Mais depuis quand les services de renseignement britanniques qui avaient percé depuis longtemps les codes allemands étaient-ils informés? Depuis la fin des années 70, un certain nombre d'historiens américains comme David Wyman, Walter Lecker ou Richard Brightman, anglais comme Bernard Wasserstein ou Martin Gilbert, se sont interrogés sur ce que les Alliés savaient de la Shoah et sur ce qu'ils auraient pu éventuellement faire pour en limiter les effets. L'occasion d'en parler.
Je présente rapidement nos invités. Nous sommes avec Céline Gervais-Francel, qui est historienne et professeure honoraire à Paris 1. Céline Gervais-Francel a établi la nouvelle édition du texte de Jan Karski, « Mon témoignage devant le monde », ça reparaît chez Robert Laffont. Nous sommes également au téléphone avec l'historien Saul Friedlander, qui est auteur notamment, on ne va pas citer toute sa bibliographie, de Kurt Gerstein, « L'ambiguïté du bien », qui est paru aux éditions Nouveau Monde, et puis plus récemment réédité par les éditions du Seuil, Pie XII et le Troisième Reich. Nous sommes également en plateau cette fois avec Christian Destremau, qui est historien, qui a publié chez Perrin en 2009 « Ce que savaient les Alliés ». Et puis nous sommes avec Claude Veil, qui est journaliste au Nouvel Observateur, qui est l'auteur d'un important article qui est paru dans un numéro récent du magazine intitulé « Les Alliés ont-ils abandonné les Juifs ?».
Merci, Saul Friedlander, d'être avec nous au téléphone depuis les États-Unis. Saul Friedlander, je viens de parler de la mission Karski parce que pour nous c'est un petit peu l'actualité parce que ce soir il y a le film de Lanzmann où on va découvrir ces 8 heures d'interview. Mais quand Karski arrive à Londres en fin novembre 1942, les services britanniques savaient déjà beaucoup de choses sur ce qui était en cours en Europe occupée en ce qui concerne l'extermination des Juifs. Comment le savait-il et que savait-il d'après vous exactement?
Eh bien, dès juillet 1941... Donc, bien avant l'arrivée de Karski, les Britanniques avaient décrypté, enfin, ils décryptaient depuis longtemps, les codes de la police allemande. Et donc, dès le début des exterminations sur territoire soviétique par les Einsatzgruppen, et les Britanniques suivaient, si vous voulez, les chiffres hebdomadaires envoyés par la police allemande, donc par les Einsatzgruppen, par les SS, à Berlin, au quartier général à Berlin. Mais je ne sais pas si, et je ne pense pas que ça a été jamais dit, je ne sais pas si les Britanniques, ceux qui savaient, et c'était un tout petit nombre, donc il y avait les décrypteurs, si vous voulez, à Bletchley, et puis il y avait Churchill qui était tenu au courant, mais je ne sais pas s'ils ont informé les Américains de ce qu'ils savaient, parce qu'ils craignaient beaucoup que les Allemands découvrent le décryptage, si vous voulez. Et les Britanniques ont-ils pu suivre ensuite les gazages dans les camps qui commencent donc avec Chełmno en décembre 1941, et puis Belzec, Sobibor, Treblinka pendant le printemps de 42, et puis la tuerie générale par balle et par gaz pendant l'été de 42. Je ne sais pas si les Britanniques à ce moment-là pouvaient suivre. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de 42, ils ont de nouveau décrypté un télégramme venant de Lublin, envoyé à Berlin, à Eichmann, donnant exactement les nombres de Juifs gazés dans chacun des camps d'extermination de la Pologne Est. Donc, si vous voulez, quand Karski, il y a une petite erreur, le présentateur a fait une petite erreur, Karski n'a jamais été au camp d'extermination de Belzec.
Non, j'ai dit une annexe.
Y avoir été.
Il a été dans une annexe.
Pardon ?
Il a été dans une annexe.
Oui, je crois qu'il était au camp de travail de Belzec, qui est tout à côté. Mais peu importe, personne ne sait exactement ce qu'il a vu. Il n'a pas pu entrer.
Le camp d'Izbitsa-Lubelska.
Izbitsa-Lubelska, dans le camp d'extermination. Mais enfin, c'est secondaire. Il a été au ghetto de Varsovie, et ça, c'est certain. Il y est allé deux fois, d'ailleurs. Alors, quand Karski arrive aux États-Unis, je pense que c'est la question que vous me posez, les Américains savaient déjà ce qui se passait, les Anglais, bien sûr, depuis plus longtemps encore. Et donc, si vous voulez, la mission Karski, qui est importante, est la mission d'un homme qui a vu quelque chose de très important, la liquidation du ghetto de Varsovie. Mais, si vous voulez, les informations générales que les Alliés avaient, ils les avaient depuis bien avant, et en tout cas les Américains depuis le début de l'été 1942.
Alors précisément, on a ici un historien français, Christian Destremau, qui est un spécialiste précisément de l'action d'information, d'intelligence, comme on dit donc, bref, d'espionnage mené par les Anglais pendant cette guerre. Et ce qui est frappant dans votre livre, à la lecture de votre livre, Christian Destremau, ce que savaient les Alliés, c'est que précisément, dès le début de la guerre, les Britanniques avaient cassé le fameux système Enigma de communication secrète des nazis, mais qu'ils ne pouvaient pas utiliser, vous le montrez à plusieurs reprises dans votre livre, ils ont eu des occasions formidable de poser des actes de guerre éminents, mais ils ont dû s'en retenir parce qu'effectivement, si les Allemands avaient compris que les Britanniques étaient en possession de leur code secret, évidemment, ils en auraient changé. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi au cas des Juifs d'Europe ? Est-ce que certains types de sauvetage qui auraient pu être entrepris ne l'ont pas été précisément pour cette raison, ne pas faire comprendre aux nazis que les Anglais connaissaient leur code ? Et deuxième question, excusez-moi, dans la première, mais Friedlander l'a évoqué tout de suite, c'est qu'est-ce que les Anglais communiquaient aux Américains de ce qu'ils savaient en décryptant les codes secrets Enigma ?
Alors, je vais répondre premièrement au deuxième point. Comme Saul Friedlander, je ne sais pas. Il y avait des accords d'échange concernant ce qui se passait et concernant l'extermination des Juifs. Ce qui est parvenu aux États-Unis, franchement, ce n'est pas encore très clair. Bien qu'il y ait eu des accords d'échange extrêmement précis concernant ces informations.
Mais les Britanniques n'ont jamais communiqué aux Américains les codes qui leur permettaient de casser Enigma. Ça, c'est assez révélateur aussi des relations.
Non, c'était un échange. C'était un échange. Les Américains avaient fourni aux Anglais les machines permettant de décoder les codes japonais. Et en échange, les Anglais avaient fourni des machines reconstituées aux Américains, mais n'avaient pas fourni la méthode pour les casser, ce qui était tout autre chose. Churchill considérait que la méthode pour casser Enigma était un atout formidable pour la Grande-Bretagne, qui allait bientôt être un allié subordonné aux Américains et qu'il fallait absolument préserver cela. Et il se méfiait beaucoup d'ailleurs des services américains, qui eux-mêmes, en fait, mettaient peu de foi dans les systèmes de décryptement. Ils étaient assez sceptiques quant à l'intérêt de ces systèmes. Concernant les décryptages, effectivement, bon, j'ai traité dans mon livre un aspect, plusieurs aspects, mais enfin sur la question que vous me posez, il y a un cas assez significatif qui est celui que M. Friedlander connaît bien, qui est le cas de la déportation des Juifs de Rome. Donc nous sommes, je rappelle que nous sommes en octobre 1943, l'Allemagne a envahi l'Italie a signé un armistice avec les Alliés, et l'ASS s'est précipitée sur Rome, avec pour objectif précis de déporter la communauté juive de Rome, qui se monte à 10 ou 12 000 personnes. Et nous avons le cas là où le programme d'interception concernant la question juive et son traitement par les Allemands a été, je dirais, presque le plus spectaculaire, dans la mesure où les informations ont été décryptées et concernant ce projet et pouvait être utilisable, je dirais, immédiatement en temps réel. C'est-à-dire que les services anglais ont appris que le projet de déportation, avec les détails de l'itinéraire, des heures de départ de Rome et de l'objectif final, puisque Auschwitz est nommément cité, et bien c'est là où nous avons l'impression, si vous voulez, en lisant les archives britanniques, qu'il y avait l'exemple type dans lequel les Alliés auraient pu faire quelque chose
d'extrêmement rapide.
Parce qu'ils étaient à proximité. Ils étaient à 200 km, ouais. Ils avaient pris Naples, ils étaient à 200 km au sud.
Donc ils avaient des moyens aériens d'aller frapper.
Ils auraient eu des moyens aériens. Les moyens aériens, ça n'avait pas de sens sur Rome. On n'allait pas bombarder Rome. Est-ce qu'on aurait pu bombarder les voies ferrées éventuellement? Alors, mais par contre, bon, il y a une raison. Alors là, qu'on peut dire, c'est vraiment le cas où ils se sont retenus parce que, et on le comprend tout de même assez bien, toute intervention aurait immédiatement provoquer la suspicion des services allemands. Dans la mesure où les délais étaient extrêmement courts, ce n'était pas un espèce de programme à long terme, c'était la déportation du jour au lendemain d'une communauté qu'il fallait rafler dans la ville de Rome. Et il est très probable qu'il y ait une sorte d'autocensure, comme très souvent dans la guerre, les Alliés, et en particulier les Anglais, avaient une règle de ne pas mener d'opération trop spectaculaire à partir d'une information qu'ils avaient interceptée.
Est-ce qu'on peut rappeler le contexte de cette discussion? Donc, Brice y a fait allusion tout à l'heure dans son introduction. Le livre de Yannick Enel, dont on ne sait pas s'il faut appeler ça récit, roman, enfin lui en tout cas, il assume sa position d'invention, hein, il dit qu'il a inventé son personnage Karski. Ce livre remet en cause l'héroïsme glorieux des Alliés qui s'est construit sur cette passivité face à l'extermination des Juifs. C'est en tout cas ce qu'il sous-entend dans son livre. Alors, Céline Gervais-Francel, Klaus Lanzmann répond à Yannick Enel qu'on ne peut pas penser l'extermination des Juifs et la passivité des Alliés autrement que dans une illusion rétrospective. Et donc, même poser cette question-là n'a aucun sens. Qu'en pensez-vous ?
D'abord, j'aimerais répondre en dehors de la polémique de Claude Lanzmann avec
Enel,
si vous voulez bien. Et je vais me référer strictement...
Ah ben nous, on a envie d'être éclairés tout de même.
Non, je vais me référer strictement à ce qu'en pensait de son vivant Karski, si vous voulez bien, parce que c'est, lui, l'objet de ma propre recherche pour essayer d'éclairer ce qu'il a écrit. Et j'ai commencé d'ailleurs mon introduction par ce qu'il en a dit en octobre 81, c'est-à-dire 3 ans exactement après avoir été interviewé par Claude Lanzmann. Je me suis permis de dire également que Claude Lanzmann avait en quelque sorte déverrouillé la mémoire de Karski, qui a donc manifestement travaillé entre le moment où Lanzmann l'a interrogé et octobre 81, où il est quand même accablant. Il souligne, et il ne sait pas encore ce que Lanzmann va mettre dans son film de sa propre interview, n'est-ce pas? Et en 81, donc, il souligne le fait que les Juifs ont été abandonnés, que son propre message et sa demande de secours qu'il a strictement, fidèlement transmise n'a pas été entendue, n'a pas été écoutée. Et ce qui est plus grave, il s'insurge à la fin de son intervention, donc, dans cette conférence des libérateurs des camps, sur le fait que, à la libération, amnésie totale. Personne ne savait rien.
Est-ce que je peux vous citer précisément, Céline Gervais-Francel, donc cette introduction que vous faites à la réédition formidable de ce livre de Yann Karski, Mon témoignage devant Le Monde, histoire d'un État clandestin. Vous citez non pas un extrait de cet ouvrage, mais d'un ouvrage ultérieur qu'a publié Karski quand il était devenu professeur de sciences politiques à Washington. Il a écrit « Churchill a été plus fautif, mais Roosevelt plus nuisible ». Donc on voit quand même que quand Enel s'en prend à Roosevelt, il est aussi dans la ligne de Karski. Moi, je voudrais quand même rappeler le contexte politique de l'arrivée de Yann Karski à Londres fin 42, quand il vient pour faire son témoignage devant les Alliés. À l'époque, depuis l'été 42, l'Union soviétique est devenue l'allié des Britanniques parce qu'ils ont été attaqués par les Allemands, c'est Barbarossa l'été 42. Et du coup, les relations entre Londres et la résistance polonaise se sont sérieusement refroidies. Et par exemple, si on prend le témoignage de Jan Novak, courrier, lui aussi courrier exactement comme Karski, un peu plus tard à Londres, envoyé du gouvernement polonais clandestin, il dit que les relations s'étaient refroidies, les Polonais étaient en passe d'être sacrifiés aux Soviétiques, c'est ce qu'il dit. Et il dit aussi, depuis l'alliance avec les Soviétiques, la Pologne était devenue gênante pour Londres. Les Polonais devaient en permanence se justifier pour Katyn. Et surtout, on les accusait en permanence de chercher à se faire mousser. Et on faisait du témoignage de Karski sur le ghetto et l'extermination des Juifs des tentatives pour faire mousser la résistance polonaise. Je vais citer le bouquin de Courrier de Varsovie de Jan Nowak parce qu'il est fascinant. Il dit, donc il parle de sa mission à Londres, il dit « Dans toutes ces rencontres, j'avais parlé de ma propre initiative de l'extermination des Juifs et de la destruction du ghetto de Varsovie. » Donc on est effectivement après 1943. Pareil génocide, l'assassinat de centaines de milliers de personnes comme du bétail à l'abattoir n'avait pas de précédent, semblait-il, dans l'histoire. Tous m'avaient écouté avec intérêt, mais avec incrédulité aussi. Une incrédulité qui ne m'avait pas échappé. 30 et quelques années plus tard, en feuilletant les notes et les rapports de mes interlocuteurs, je remarquais avec étonnement que la question des Juifs en avait été totalement écartée. C'est assez accablant. Suite du témoignage de Nowak, mon prédécesseur, l'émissaire Karski, avait fait la même expérience lorsqu'il était arrivé à Londres un an plus tôt, porteur d'une somme considérable sur le sort des Juifs. Karski était allé très loin. Avant de partir, il avait risqué sa vie en se faisant passer pour un policier estonien. Bon, en fait, c'était ukrainien, mais qu'importe. Afin de pénétrer dans le camp de la mort de Belzec et d'y voir de ses propres yeux quel était réellement le sort des Juifs emprisonnés là-bas. Je savais par Jan Karski lui-même qu'il avait profité d'une audience chez Eden pour parler en détail de l'extermination systématique et progressive de la population juive. Le sous-secrétaire d'État avait estimé cet entretien suffisamment important pour communiquer à tous les membres du cabinet de guerre le compte-rendu qu'il avait préparé. Je le retrouvais dans les archives et constatais avec étonnement que rien de ce que Karski avait déclaré concernant la liquidation des Juifs n'y figurait plus. Pourquoi ? Page 232 de Jan Nowak, courrier de Varsovie, publié chez Gallimard en 78.
Oui, mais il l'a répété après Karski. Karski lui-même l'a écrit dans son livre « Les grandes puissances et la Pologne ». Il a été lui-même...
Pourquoi tout ce qui concerne l'extermination des Juifs a-t-il disparu des archives britanniques ?
Non. Ça n'a pas disparu. Non, c'est pour cela. Je fais davantage confiance à Karski qu'à Nowak sur cette question-là, parce qu'il était antérieur et puis parce qu'il a mis le nez dans les archives, ne serait-ce que pour faire son livre de Great Poles and Poland. Et il a eu accès à ces archives, d'autant plus qu'il avait été chargé par la Fondation Hoover dès 1944 de demander au gouvernement en exil de déposer leurs archives, justement, à l'Institut Hoover. Donc, il avait eu en quelque sorte une primeur de certaines archives. Il connaissait parfaitement les archives polonaises, les rapports qui avaient été déposés. Et à partir de ce moment-là, il cherchait les mêmes rapports aux mêmes dates. C'était plus facile quand il a eu accès aux archives britanniques. Et au stupeur, il a été même... Il n'en revenait pas, Karski, que le très beau rapport d'Eden, pour lequel il avait dit son admiration quand il était jeune homme, n'est-ce pas ? Pour lui, c'était le modèle du diplomate. Et c'était stupéfait de voir que dans son superbe rapport sur sa conversation avec lui-même, la question juive avait été...
Et pourquoi ?
Comment expliquez-vous alors que cet appel, le 17 décembre 1942, qui suit de 3 semaines l'arrivée de Karski à Londres, le grand appel des Alliés,
qui
mettent l'accent
quand même
sur la question.
Il y a une énorme pression. Il faut voir une chose, c'est que le fameux résumé en 2 pages du 25 novembre, que d'emblée, Karski arrive le 28, enfin il est remis, il arrive dans la nuit du 25, mais heureusement, les clés, la clé qui contenait les fameux microfilms, elle était arrivée le 17 novembre. Ce qui fait que le gouvernement polonais l'avait déjà, et il avait déjà travaillé, avait tout décrypté, avait déjà tout mis sur papier, et l'avait déjà diffusé une première fois dans un rapport en 2 pages, et ensuite sont venus d'autres rapports, n'est-ce pas ? Et donc cela a, d'une part, accrédité aux États-Unis, différents historiens le soulignent, différents autres rapports sur le génocide, mais en plus, ça a déclenché également des démarches des représentants juifs à Londres, des députés d'origine juive au Parlement et même des églises, je dis au pluriel des différentes églises anglaises. Il y a eu une pression formidable sur le gouvernement au point que même le 17 décembre, Eden sera obligé de s'expliquer devant la Chambre sur ce qu'il a déjà fait. Et il y a eu donc différentes... on a autorisé la BBC en particulier de donner accès aux Polonais et aux Juifs polonais dès le 10 décembre, pour pouvoir parler. Et c'est ainsi que, dès le 13 décembre, Tsigelbaum a pu parler à la BBC, et le 17 décembre, le ministre des Affaires étrangères, Kaczynski, a pu parler aussi. Mais avant ça, il y a eu la note des Polonais, elle est très importante, la note du 10 décembre, qui résume tout cela. Pardon, c'était trop long, excusez-moi.
Non, c'est pas ça, je vais vous montrer de parler dans le micro. Claude Weil, comment vous considérez-vous le rôle de cette mission Karski? Est-ce qu'elle venait couronner des efforts d'investigation que les Anglais avaient déjà menés, ou est-ce qu'elle leur apprenait des choses nouvelles?
Je crois que Karski est une source parmi d'autres. Il n'y a pas de révélation Karski pour ses interlocuteurs, y compris pour Roosevelt et pour Churchill, qu'il n'a pas rencontré personnellement, mais pour l'administration britannique qui, en effet, avait rassemblé depuis à peu près un an et demi beaucoup d'éléments du puzzle. À partir de quel moment les éléments du puzzle offrent-ils une vision d'ensemble du motif? Ça, c'est la question. Pièce du puzzle très importante, le télégramme de Rigner, l'été 42.
Venu de Suisse.
Rigner, de Suisse, de source allemande, très haut placée, fait état d'un projet massif, d'un projet total d'extermination du peuple juif par recours à l'acide prussique. C'est écrit.
Ça date de quand, ça?
Ça, c'est juillet 42.
5 août.
5 août, pardon. Enfin, je ne sais plus à quel moment il arrive aux États-Unis.
Il arrive aux États-Unis une première fois au département d'État le 5 août.
C'est ça, mais Rigner le reçoit début juillet. Et le texte arrive...
Et la vision d'ensemble, alors? L'idée qu'il y a un programme d'extermination totale de la population juive.
Juste encore un mot sur Karski. Un mot sur Karski. Personnage magnifique. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de sa mission. Karski ne vient pas informer les alliés du sort des Juifs de Pologne. Karski est un envoyé du gouvernement polonais qui vient parler de la situation en Pologne occupée, de l'importance de reconnaître ce gouvernement, de l'aider, de le soutenir. Il vient expliquer l'importance de la résistance polonaise. D'une certaine façon, il fait, toute proportion gardée, à peu près ce que fait De Gaulle vis-à-vis des alliés, c'est-à-dire « je suis la France, aidez-moi, donnez-moi des moyens de combattre ». Ne regardez pas ailleurs la réalité de la nation polonaise, c'est nous, c'est le gouvernement en exil de Sikorski, c'est moi qui le représente.
D'ailleurs, les Juifs ne composent qu'un des chapitres de ce bouquin.
Lorsqu'il rencontre Roosevelt, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, il est revenu par la suite longuement sur cet entretien. Je rappelle quand même que dans les mémoires de Jan Karski, qui reparaissent aujourd'hui, dans une, en effet une remarquable édition, l'entretien avec Roosevelt fait une page. Et la question juive dans cette page, une ligne. Donc, c'est sur cette ligne, sur ce silence délibéré, que Hennel a construit un roman, et il avait le droit de construire un roman. Enfin, ce qui est un imaginaire. L'attitude de Roosevelt, etc. Bon. La question est... Donc, moi, j'aime beaucoup le titre de votre émission, « Voulait-il savoir ?» qui ramène à une question extraordinairement complexe, qui est celle de qu'est-ce que c'est que savoir. Vous connaissez tous la phrase de Raymond Aron, « J'ai su ces choses, mais je ne me les suis pas représentées, et donc je ne les ai pas su ». Peut-on se représenter une chose comme ça, une des plus grandes nations européennes de haute civilisation, comme étant un crime de cette nature-là? On est en guerre, le monde entier est en guerre. Comme l'a écrit Peter Novick, évidemment, il y a sous-estimation. C'est un historien américain qui a répondu à Wyman, c'est-à-dire à la thèse de l'abandon. Et Novick dit une phrase qui est, pour nous, terriblement choquante, vue de 2010. Il dit, n'oubliez pas qu'il n'y avait pas l'Holocauste. L'Holocauste, faux mot qui ne s'imposera dans le vocabulaire américain que tardivement, comme Shoah a été importé dans le vocabulaire français, par le film de Lanzmann. Il n'y avait pas l'Holocauste, il y avait un Holocauste des Juifs, et Novick précise entre parenthèses, sous-estimé, au sein d'un grand holocauste, qui était la guerre mondiale, qui a fait 60 millions de morts. Les Américains et les Anglais faisaient la guerre. On peut rétrospectivement leur dire, vous avez été insuffisamment attentifs au sort des Juifs. Mais n'oubliez pas qu'ils faisaient une guerre totale, que l'Amérique était engagée en Afrique du Nord, en Italie, dans le Pacifique, préparait un débarquement en Normandie. Il n'y avait pas une centralité de la question juive. Et cette centralité de la question juive ne s'est imposée que tardivement dans la conscience occidentale, dans la conscience soviétique et communiste des pays de l'Est, disons, très, très, très tardivement.
Ça m'a revisé, parce que sur le camp d'Auschwitz jusqu'en 90, il y avait tant de millions de citoyens polonais, tant de millions
absolument,
de citoyens français,
absolument.
Tant de millions de tchèques, et les Juifs se figurent
en tant que tels. Très bien raconté tous les débats qui ont lieu autour de l'inauguration du musée d'Auschwitz. Cette prise de conscience tardive, elle est liée à des événements historiques que nous pouvons analyser. C'est-à-dire, d'abord, nous avons la connaissance des faits, et puis la guerre est loin. C'est-à-dire, la dimension militaire de la guerre pour nous est loin. Les morts militaires, nous nous sommes réconciliés. la France et l'Allemagne sont réconciliées, le Japon et les États-Unis sont alliés. Donc cette dimension nationale, guerrière du conflit est passée à l'arrière-plan et s'est imposée comme une évidence à nos yeux horrifiés, l'exceptionnalité totale de ce crime consistant à prendre des civils chez eux, de les mettre dans des trains pour les gazer. Mais à l'époque, ça pouvait être perçu par la plupart des acteurs comme faisant partie du cortège des horreurs de la guerre. Et il y a la part de l'incrédulité. Moi, j'ai été frappé en travaillant sur ce document, de voir par exemple que on a fait allusion, Monsieur Destremont, Madame, au télégramme, à la déclaration commune des alliés du 17 décembre 1942, qui est considérable, puisque officiellement, pour la première fois, les trois gouvernements, Union soviétique, États-Unis, Grande-Bretagne...
Les 12 gouvernements, monsieur.
Oui, enfin,
les 12 gouvernements, il ne faut quand même pas les oublier.
Pardon, les 12. Disent, oui, il y a un projet d'extermination totale des Juifs, et tout ça sera puni, ça fait partie de nos objectifs de guerre que de demander justice et vengeance pour ces crimes-là. Lorsque ce télégramme paraît, il n'a pas un écho, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, considérable. La phrase d'Eden est incroyable. Eden note dans son journal « J'étais très étonné de l'impression que ma déclaration a faite. »
Au commune. Ce qui n'est pas la même chose.
Au commune. Et près d'un an après, un garçon très important qui s'appelle Lord Cavendish, qui est le chef du renseignement britannique, le service du renseignement unifié britannique, déclare « Je reste convaincu que nous avons tort d'accorder crédit à cette histoire de chambre à gaz. » C'est-à-dire que, vous savez, vous connaissez la fameuse formule de Churchill, « La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. » Il y a tellement de mensonges dans la guerre qu'au milieu de l'innombrable flot de messages qui circulent dans tous les sens, il est évident que les messages concernant les Juifs ont été sous-estimés, mal compris, quelquefois mal interprétés et considérés, au fond, pas comme la question centrale, parce que l'objectif, comme disait Clémenceau, c'est de faire la guerre.
Mais on en revient à ce que disait Claude Lanzmann ce matin, à ce qu'il écrivait déjà dans son article dans Marianne il y a quelques semaines. Il faut être attentif à l'illusion rétrospective, oublieuse de l'épaisseur, des pesanteurs et de l'illisibilité d'une époque. Saoul Friedlander, vous êtes avec nous au téléphone. Karski raconte d'ailleurs qu'il rencontre un éminent personnage américain, Félix Frankfurter, qui est juge à la Cour suprême, qui termine l'entretien avec cette phrase « Je ne dis pas que vous êtes un menteur, je dis que je ne vous crois pas. » Donc, on peut donc ne pas croire ce que l'on sait. Saoul Friedlander.
Oui, Frankfurter, la phrase de Frankfurter a souvent été répétée. Je pense que, oui, comme juif américain, il ne voulait pas croire à ce que Karski lui disait, mais il savait évidemment que ce que Karski disait était vrai. Et Roosevelt le savait aussi, puisque Roosevelt, bien avant cet entretien avec Karski, avait dit au délégué juif qui était venu le voir en décembre 1942, avait dit je suis au courant des faits que vous me rapportez, ça a été confirmé par diverses sources que nous avons, et il confirme donc le fait que les Juifs d'Europe sont exterminés, et il est tout à fait d'accord pour qu'il y ait cette déclaration qui vient d'être mentionnée par plusieurs des intervenants, la déclaration donc de décembre 17, je crois, décembre 1942. Donc les Américains sont informés, mais alors comme viennent de le dire plusieurs des intervenants, et l'affaire juive, l'extermination des Juifs d'Europe, est un fait tout à fait secondaire, tout à fait marginal pour les alliés de l'époque. Ne parlons pas des soviétiques qui vraiment n'y prêtent pas attention du tout. Pour eux, d'ailleurs, idéologiquement, il ne s'agit que de citoyens soviétiques ou d'autres qui les intéressent peu. Mais pour les alliés occidentaux, dont on se serait attendu rétrospectivement à d'autres réactions, c'est une affaire marginale, comme le disait, je crois, madame, le dernier intervenant, il y a une guerre totale, globale, du Pacifique à l'Atlantique et en Afrique du Nord, etc. Et l'extermination des Juifs n'est qu'un un aspect tout à fait secondaire de ce qui se passe.
De toute façon, Saul Friedlander...
Je voulais ajouter juste un tout petit détail. Tout à l'heure, on a parlé de la déportation des Juifs de Rome et on s'est demandé dans le débat pourquoi les Alliés ne sont pas intervenus. Je crois que la question formidable à ce sujet-là, ce n'est pas la déportation des Juifs de Rome, que nous connaissons tous bien, effectivement, mais la déportation des 400 000 Juifs de Hongrie, n'est-ce pas, à partir de mai 1944, et de Budapest, si vous voulez, ou de Hongrie du Nord jusqu'à Auschwitz. C'est un voyage très, très bref. Et il s'agissait à ce moment-là qu'il y avait des suppliques juives adressées aux Alliés, bombarder la ligne de chemin de fer entre Budapest et Košice-Auschwitz, pour ne serait-ce qu'arrêter pour quelque temps le transfert des Juifs hongrois. Et puis après, il y a eu la demande de bombarder les installations de gazage à Auschwitz même si ça doit coûter la vie à certains, aux détenus, si vous voulez, qui sont en route pour les chambres à gaz. Et la réponse est négative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des moyens militaires pour des buts non militaires, parce que nous faisons la guerre. La seule manière de résoudre ce problème ou de sauver les Juifs est de gagner la guerre. Et ça a été l'argument des Alliés depuis le début et jusqu'au bout. Il y a eu l'argument anglais. Et que ferons-nous de ces Juifs si jamais les Allemands acceptent d'en livrer quelques centaines de milliers en échange de camions, disons? L'argument était, mais où est-ce qu'on va les mettre? On ne va pas les mettre au Moyen-Orient parce que le monde arabe s'y opposerait, etc.
Et puis surtout, il y avait l'argument que si on livrait des camions et puis de l'or, parce que précisément ce que met aussi en lumière le livre de Christian Destremo, c'est que la première chose que les gendarmes allemands rançonnant la population juive italienne de Rome commencent par leur réclamer 50 kilos d'or, en leur faisant croire qu'ainsi ils vont échapper à l'extermination. Bien sûr, ils n'y échapperont pas. Mais il y avait aussi l'idée qu'on pouvait essayer de racheter un certain nombre de populations juives d'Europe occupée et leur extermination en livrant aux Allemands de l'argent, de l'or. Or, précisément, ça aurait renforcé l'effort de guerre allemand et donc retardé d'autant la victoire contre eux. Or, la victoire était... il y avait une espèce d'agenda politique des Alliés qui était d'abord gagner la guerre et à tout prix. Le problème de la survie de ce qui restait de population juive en Europe paraissait secondaire en comparaison de ce problème-là.
Je crois que là, nous sommes dans l'ordre de l'anachronisme. Nous sommes influencés par la théorie récente, jeune, du droit d'ingérence. Il n'est pas pensable à l'époque qu'un État soit tenu pour responsable des souffrances infligées par son ennemi aux populations soumises à son autorité. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument d'accord avec vous. Mais c'est vrai que sur le plan militaire, autant il paraissait impossible de bombarder les installations d'Auschwitz en 1942, parce que simplement les Alliés n'en avaient pas les moyens, autant effectivement dans le cas des Juifs de Budapest, des Juifs de Hongrie, les Alliés étaient déjà largement présents en Italie et il leur aurait été tout à fait possible d'aller effectivement d'intervenir au profit des juifs hongrois. De la même façon, moi ce qui me choque beaucoup, c'est le fait qu'il n'y ait rien eu contre les marches de la mort. Quand les nazis ont vidé les camps de concentration des populations qui leur avaient survécu et les ont emmenés pour empêcher leur libération par les Alliés et les Soviétiques, les ont emmenés dans des marches de centaines de kilomètres en abattant le long de la route ceux qui n'arrivaient plus à marcher parce qu'ils n'avaient plus assez de force et qu'ils n'avaient rien mangé ni bu depuis si longtemps, il y aurait eu là certainement moyen de mettre fin à ces marches. Et il semble bien que les objectifs militaires à l'époque semblaient bien plus importants, bien plus prioritaires que le sort de ces dizaines de milliers, centaines de milliers de civils qui erraient ainsi sur les routes en direction de l'Allemagne. Qu'est-ce que vous en savez, Céline Gervais-Francel ?
J'étais en train de penser, je voudrais répondre quelque chose à M. Claude Weil sur deux points.
Vous ne voulez pas répondre à ma question ?
Si, je veux bien, mais est-ce que vous m'autorisez à dire très vite ? Parce que là, je suis un petit peu choquée par, pour le coup, un anachronisme féminisme avec la référence à la, au droit d'ingérence. Je me permettrai de rappeler simplement qu'il y avait quelque chose de... Une très vieille dame qui s'appelait la Convention de la Haye de 1907, dont le point 4, justement, interdisait un certain nombre de comportements vis-à-vis des civils. Et c'est à elle que se sont référés un certain nombre des gouvernements, ces petits États pas importants, qui ont quand même signé le fameux papier de St. James en janvier 40.
Vous n'avez pas compris, madame.
Ah ben, je ne vous ai peut-être pas compris, excusez-moi.
Alors, je vais redire ce que je voulais dire. Je veux dire que je voulais simplement dire que dans la mentalité de l'époque, évidemment que tout le monde était... tout ce que vous dites est évidemment vrai. Ce que j'essaie de dire, c'est que les gouvernements alliés, dans la mentalité de l'époque, ne pouvaient pas être considérés comme responsables du sort des populations soumises au régime d'occupation allemand.
Oui, et encore que, il y a une petite note du département chez Eden qui dit, avec ce que nous savons maintenant comme certains, si nous ne faisons pas une réprobation ferme publique en donnant libre cours également à l'opinion publique anglaise de s'exprimer dessus, nous risquons ensuite d'avoir des ennuis parce que nous n'aurions rien fait. Et ça, c'est dit le 5 décembre 42. Donc, on a conscience qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, autre chose, très brièvement sur votre remarque sur ce malheureux petit chapitre ou cette page un quart de Karski, écrite en 44 sur son entrevue avec Roosevelt et la ligne sur la question juive. Je pense que pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui verront ce soir le film Rapport Karski, ils verront que justement Karski complète, c'est bien évident s'il y a un point sur lequel dans la querelle Lanzmann Yannick Hennel a raison, c'est de dire que cette page-là est éminemment diplomatique en 44.
Je voudrais donner le dernier mot à celui de Friedlander parce qu'il y a une question qui me paraît fondamentale, c'est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que les alliés craignaient qu'au fond, en focalisant l'information des populations sur le sort réservé aux juifs, on ne donne l'impression que la guerre contre l'Allemagne hitlérienne était une guerre pour les juifs, comme le répétait l'extrême droite européenne à l'époque?
Et c'est ce que Goebbels d'ailleurs essayait de répéter constamment, c'est une guerre juive, les juifs sont derrière Roosevelt, bien sûr, derrière les Anglais et derrière Staline, mais surtout derrière Roosevelt, et ils nomment évidemment Morgenthau, etc. Mais
ça avait été un thème favori de l'extrême droite, de la droite américaine, notamment Charles Lindbergh avant l'entrée en guerre des États-Unis.
Bien sûr, les juifs poussent à la guerre, donc avant l'entrée en guerre. Et alors, et Roosevelt a beau jeu, si vous voulez, de répondre aux dirigeants juifs qui essayent très prudemment, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, très prudemment de le pousser à faire un peu plus. Il leur répond, il faut gagner la guerre d'une part, et d'autre part, il faut surtout éviter que ce soit une guerre qui soit considérée comme une guerre juive. Il change de politique au début de 1944 et il met sur pied le War Refugee Board, donc l'agence qui va coordonner sous les moyens d'aider les juifs, ne fera pas grand-chose, sauf à la fin de la guerre. Il va changer de cap, si vous voulez, mais pour des raisons de politique intérieure. Et sous pression, d'ailleurs, du département des finances, Treasury, dont le chef est Morgenthau. Mais surtout parce que les élections de 1944 s'approchent et ils pensent que politiquement, ce serait une chose utile que de changer de cap sur cette question.
Je vous remercie, Salut Friedlander. Je rappelle qu'on vient de publier en français votre livre consacré à Pie XII et le Troisième Reich. C'est un sujet aussi que vous avez en commun avec Christian Destremau, puisque dans son livre « Ce que savaient les alliés », il y a un chapitre qui est consacré précisément, comme on l'a dit, à l'arrestation et à la déportation des Juifs de Rome. Salut Friedlander, vous êtes historien. Vous êtes notamment l'auteur de Kurt Gerstein, « L'ambiguïté du bien au Nouveau Monde ». Merci à Céline Gervais-Francel. Vous êtes historienne, professeure honoraire à Paris 1, et vous venez de faire publier le fameux témoignage de Yann Karski, Mon témoignage devant le monde, qu'on retrouvera donc ce soir sur Arte dans une interview réalisée par Claude Lanzmann. Merci à Claude Veil. Vous avez monté un excellent dossier qui nous a beaucoup servi pour cette émission, qui s'appelle « Les alliés ont-ils abandonné les juifs ?» C'était dans Nul Observateur de la semaine dernière.